Le Club Tour avec Dequeninck, fenêtre, porte, volet, terrasse composite. Plus d'infos sur dequeninck.fr.
Le Club Tour, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 et avec vous, Axel May. Axel ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Une victoire, surprise et un favori pour le général déjà à terre. La première étape de ce 106e Tour de France a été remportée donc par le néerlandais Mike Tennissen et le danois Jakob Fuglsang a chuté à 18 km de l'arrivée. Le leader de l'équipe Astana a franchi la ligne, hein, mais il a été touché au coude et à une arcade. À mes côtés, notre nouveau consultant sur Europe 1, Thomas Voeckler. Bonsoir.
Bonjour tout le monde.
Patrick Chassé, notre expert vélo.
Bonsoir à tous.
Et puisque nous sommes en Belgique, nous ne pouvions faire autrement que recevoir un coureur d'une équipe belge, Ludovic de Winter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez exprès de Binche, hein, c'est à une petite heure de route en voiture, un peu plus en vélo.
De Binche.
De Binche.
Alors oui, bah, on est à 50 minutes de Binche ici à Bruxelles, donc on est vite à la capitale.
Et de l'équipe Wanty Gobert, ça tombe bien parce qu'il y a eu un de vos coéquipiers qui a été dans l'échappée du jour. Des auditeurs vont intervenir aussi hein, durant cette édition et puis... un débat en fin de Club Tour. Ce soir, je vous poserai la question : qui est le plus grand coureur de tous les temps ?
Europe 1, 19h-20h, le Club Tour, Axel May.
Le recours à la photo finish a été nécessaire pour déterminer qui de Mike Tennissen ou de Peter Sagan avait franchi la ligne d'arrivée en premier. Tennissen a devancé Sagan de 9 millièmes. Lorsque je commentais l'arrivée en direct, j'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas forcément à ce coureur. Thomas Voeckler, c'est une surprise, Tennissen qui s'impose sur cette première étape devant Sagan, devant Ewan.
Ah, celui qui vous dit qu'il avait parié sur lui ce matin, je crois qu'il est malhonnête. C'est habituellement le coureur qui lance Dylan Groenewegen, qui était le grand favori pour ce sprint aujourd'hui. Donc ce coureur a pu jouer sa carte personnelle parce que son leader a chuté dans le dernier kilomètre. Et donc, non, c'est vraiment une surprise, une belle surprise. Mais c'est un garçon qui a fait une très belle première partie d'année et qui était très en forme à la bord de ce Tour de France.
Et Ludovic, on en parlait, Ludovic de Winter, on en parlait là en préparant un peu l'émission. C'est un coureur que vous côtoyez sur certaines courses.
Oui, c'est bien ça. J'ai eu la chance de le côtoyer dernièrement sur les courses de préparation qu'il a effectuées avec son équipe. Il a notamment gagné aux 4 jours de Dunkerque. Et donc, il était vraiment en grande forme ici sur ces dernières semaines. Et comme l'a dit Thomas, c'est vraiment une chance pour lui, entre guillemets, cette chute de Groenewegen. Pour cette opportunité, c'est surtout une belle opportunité pour lui de pouvoir faire son sprint et il l'emporte d'une très belle manière et en plus il repart avec le maillot jaune aujourd'hui.
Et à votre avis, messieurs, comme la chute est intervenue à un kilomètre, il s'est rendu compte que son leader était à terre ?
Ils l'ont dit dans l'oreillette. Il a juste entendu qu'il était tombé, donc on lui a pas dit va faire ton sprint ou quoi, mais ça coule de source. À partir du moment où votre leader est à terre, à ce moment-là, on n'attend plus un kilomètre, on dit pas bah tiens, on va aider à revenir, non, c'est fini. Donc perdu pour perdu, autant essayer de faire un résultat. Patrick Chassé, fort bien fait.
Patrick Chassé, Tennissen, il vient du cyclocross, il a été récupéré par l'équipe Jumbo-Visma parce qu'il est spécialiste des classiques et là il s'impose quand même en costaud, hein, à 50 mètres de la ligne, hop, il démarre et il récupère Caleb Ewan et puis Peter Sagan, le Slovaque.
Oui, c'est vrai que quand on a vu Peter Sagan se présenter au bout de cette ligne droite, on s'est dit quand même que là, surtout avec la disparition de Groenewegen, eh bien on allait peut-être assister déjà à combien 12e succès de Peter Sagan sur les routes du Tour. On s'attendait, ou surtout, moi je regardais dans ce sprint, je regardais Viviani, je regardais ceux qui étaient derrière, Caleb Ewan, qui se sont gênés l'un l'autre. Ils sont passés, eux, à côté. D'ailleurs, Caleb Ewan l'a dit, il sent qu'il a la victoire dans les jambes, il l'a dit à l'arrivée. Viviani devait être un petit peu furieux, comme d'habitude, il n'a pas suivi le train de ses poissons pilotes, de ses lanceurs, Morkov et l'Argentin, dont j'ai un trou de mémoire,
Richezé,
merci. Donc, bon, là, on voit que les sprinteurs sont pas tous complètement au point, en tout cas, ont pris leur marque. Et c'est souvent le cas, hein, quand même, une première étape avec, non pas le grand favori attendu, mais on va dire un outsider qui s'impose.
Thomas Voeckler, hein ?
Julien Alaphilippe, après l'arrivée, il m'a dit que oui, il y a eu une incompréhension parce qu'il était surpris que Viviani, donc le sprinter de Koenig Quickstep, n'était pas dans les roues de ses équipiers qui étaient chargés de lui emmener le sprint. Donc il y a eu une incompréhension. Après, un sprint, c'est très très compliqué. Il y a eu une chute qui est intervenue à moins de 2 km de l'arrivée, 1,5 km, il me semble, une grosse chute. En plus, c'est tombé vers l'avant, non pas en queue de peloton. Donc ça désorganise complètement les trains, les coureurs qui emmènent leur sprinter. Et puis, je crois aussi que l'arrivée était bien plus difficile qu'elle ne paraissait. Parce que vous, si vous regardez les images à la télé, eh ben les coureurs n'allaient pas vite. Et quand c'est la force d'un Peter Sagan, c'était pas impressionnant en vitesse. Donc c'est que l'arrivée était beaucoup plus difficile qu'on ne pensait.
Alors on va en reparler des chutes dans quelques instants parce que c'est important. Il y a eu notamment chez AG2R la mondiale, chez Ineos, il y a eu une chute pour un leader, Jakob Fuglsang, ça c'était un peu avant, mais enfin c'est une sacrée chute aussi. Quand on regarde les premiers maillots, on a donc maillot vert, 50 points chacun, Tennyson et Sagan, et puis Patrick, c'est Tennyson qui a le maillot vert parce que c'est lui qui a gagné, même s'ils sont à égalité de points, c'est lui qui a gagné l'étape alors que Sagan, lui, avait joué le sprint intermédiaire. Sagan, oui, qui veut un septième maillot vert pour remporter le record qu'il partage avec Isabelle.
Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de nos invités parce que j'ai quand même l'impression, j'ai senti chez Sagan une forme de pragmatisme qu'on ne lui connaît pas, il me semble. C'est-à-dire aller faire les points une fois que la course est lancée, etc., aller faire les sprints intermédiaires. Alors, est-ce que c'est lié à ces nouveaux règlements qui ne sont pas apparus forcément cette année, mais qu'on a maintenant l'habitude de voir avec ce sprint intermédiaire, ce point unique où il faut prendre...
Passé, il y avait trois sprints intermédiaires qui délivraient beaucoup moins de points que ce sprint unique depuis l'an dernier, ou il y a deux ans d'ailleurs.
Donc est-ce qu'il adapte justement une nouvelle façon de courir par rapport à ce règlement, ou est-ce qu'il n'est pas si sûr de lui et qu'il préfère quand même, c'est là que je disais, pragmatique, prendre, enfin opportuniste comme vous voulez, il va prendre les points là où il est possible de les prendre sans attendre les étapes de montagne, c'est-à-dire même avant, quand un sprint est disputé dans une étape de plaine, encore une fois, ce qu'il ne faisait pas nécessairement dès la première étape auparavant.
Ouais, là aujourd'hui je crois que c'est plutôt les circonstances qui ont fait que, c'est-à-dire que l'échappée, c'était pas très difficile de revenir dessus, elle était contrôlée à moins de 2 minutes, il y avait un secteur pavé, donc de toute façon il fallait rester placé à l'avant pour éviter les risques de chute, donc les circonstances ont fait qu'ils ont rattrapé l'échappée, il y avait une opportunité de rattraper l'échappée sans avoir une débauche d'énergie énorme. Je pense que si après-demain on a une étape avec une échappée qui a 6 minutes d'avance, Peter Sagan ne fera pas rouler ses équipiers pour aller. C'était plus les circonstances à mon avis.
Dans cette échappée, il y avait 4 hommes, dont Greg Van Avermaet qui en a profité, lui, du côté du mur de Gramont, pour récupérer les premiers points du classement de la montagne. Et lui, le Belge, il était sur le podium tout à l'heure protocolaire pour récupérer ce maillot à poids. Le meilleur jeune, c'est Caleb Ewan qui a terminé 3e de cette étape. Et puis, on a quand même un Français qui a récupéré le prix de la compétitivité, c'est Stéphane Rossetto. Il est au micro Europe 1 de Marguerite Lefebvre.
C'est cool et voilà, c'est une bonne entame pour Cofidis. Je pense qu'on a été offensif. C'est le mot d'ordre ici, de se faire plaisir, d'aller chercher tout ce qu'il y a à chercher. Malgré l'étape et tout nerveux, je me sentais à l'aise, je me sentais assez frais. Donc je suis allé, on va essayer quelque chose. La circonstance de la course, ça fait que ça pouvait se tenter. Je crois qu'il n'y a que moi qui ai eu cette idée-là. Enfin, je suis bon. Après, sur le final, c'est vrai que j'ai pris un bon écart, j'avais de bonnes jambes, mais le final était vraiment compliqué. Des longs faux plats montants. Voilà, j'ai buté complètement, je dis bon, c'est mort. Donc. Bon, c'est la vie. Hein.
Parce que quand le peloton a rattrapé les 4 échappés, lui, peu après, Stéphane Rossetto, il est parti à 32 ans, c'est son premier Tour de France. Et je sais pas, Patrick, Ludwig, Thomas, lequel veut réagir, mais qu'est-ce qui lui a pris? C'est comme montrer les couleurs de son équipe?
Bah, je pense que je peux prendre la parole au niveau d'une petite équipe, entre guillemets, parce que bon, Cofidis, c'est une grande équipe, une grande formation. Mais je sais que c'est très important de se retrouver à l'avant, et surtout de la plus grande course au monde, ici, au Tour de France.
Et vous avez l'un de vos coéquipiers de chez Wanty-Gobert qui était dans l'échappée matinale et qui a montré les couleurs, comme on dit.
Oui, c'est bien ça. Bah, je pense que dans l'équipe, la mission était d'essayer de prendre ce maillot à poids sur les hauteurs de Gramont. Pas de chance pour lui, il a quand même eu le champion olympique avec lui dans l'échappée, et qui est un des meilleurs coureurs du monde.
Bon, on va continuer à parler de Patrick.
Juste une précision, c'est quand même un coureur, Rossetto, qui a compris quelque chose depuis un moment. Il fait partie des rares Français qui sont capables, et je pense que Thomas y est sensible, de s'échapper et d'aller gagner une course. Il l'a fait à Leeds sur le Tour de Yorkshire, donc pour l'année dernière, pour
s'échapper solitaire.
Voilà. Et donc il sait. Encore une fois, il y a des coureurs. Faut faire attention avec les échappées. Il y a des échappées alibi. Les mauvaises langues diraient échappées bidon. Il y a les échappées qui ont une réelle chance d'aller au bout. Et Stéphane Rossetto est suffisamment intelligent pour justement, il l'a dit, en plus ne pas puiser dans ses réserves. Il a fait quoi? Une heure d'échappée.
Exactement.
Et bon, ça n'a pas marché. Mais dans ce cas-là, ça vaut le coup parfois de tenter sa chance. Parce qu'il avait pas mal de réserves au moment où il est sorti. Cette fraîcheur athlétique aurait peut-être pu, dans certaines circonstances de course, avec les chutes qu'il y a eu notamment, il aurait peut-être pu espérer la victoire.
Pour être franc, j'ai pas compris qu'il soit le seul à tenter ce coup-là. Parce que il faut pas se le cacher, c'est aussi, y a aussi un côté business dans le Tour de France. Donc quand vous avez une heure d'antenne à la télévision où vous montrez le sponsor, sachant que c'est que vous êtes pas en train de faire 200 km vent de face et de vous épuiser pour le reste du Tour de France. En plus, vous prenez du plaisir, vous mettez l'équipe dans une bonne dynamique. Moi, j'aurais vu d'un bon œil qu'il y ait 2-3 coureurs d'autres équipes qui se joignent à lui. Et à 3, c'est peut-être pas le même dénouement.
D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, il était presque surpris, Stéphane Rossetto, de s'être retrouvé tout seul ou d'avoir eu seul cette idée. On va continuer à parler de tout ça et puis surtout de toutes ces chutes qui sont intervenues dans le final de cette première étape du Tour de France.
Et jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est le Club Tour. Nous sommes avec Axel May.
Et nous sommes donc à Bruxelles où la première étape a été remportée par le Néerlandais Mike Tennyson qui du même coup est le premier maillot jaune de ce Tour de France. Thomas Voeckler, notre consultant européen, est là. Patrick Chassé et puis Ludwig de Winter qui est coureur chez Wanty-Gobert, qui n'est pas sur le Tour de France, l'équipe si, mais vous non, mais qui représente la Belgique. Et donc c'était important quand même d'avoir un Belge dans cette émission. Ces chutes, à un kilomètre de l'arrivée, on l'a dit, Dylan Groenewegen qui était l'un des favoris, mais c'est l'un de ses coéquipiers qui s'est finalement imposé. Il y a eu apparemment Geraint Thomas qui a failli tomber, qui a percuté des barrières, qui est quand même Geraint Thomas, Patrick Chassé, le vainqueur sortant du Tour de France.
Oui, on a eu une petite frayeur, même si on l'a frayeur rétrospective, parce qu'à vrai dire sur les images du direct on ne l'a pas vu, mais c'est vrai qu'il a dû éviter cette chute de justesse. Il a heurté juste les balustrades et c'est passé. Il a d'ailleurs franchi l'arrivée avec les hommes du peloton, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de coureurs qui eux ont été classés assez heureusement dans le même temps, parce qu'il y a cette fameuse règle des 3 km. Quand on tombe dans les 3 derniers kilomètres, on n'est pas pénalisé par cette chute, même si on repart longtemps après. Lui, malgré tout, a terminé dans le gros du peloton, ce qui n'est pas le cas de Dylan Groenewegen, dont on a parlé, mais également d'Emmanuel Bourman, que l'on a vu à son avantage tout récemment sur la route du Dauphiné, ou également de Marco Aller, de Carlos Verona, et puis des Français, Alexis Villermo et Benoît Cosnefroy.
Et ça, Thomas Voeckler, Benoît Cosnefroy, Alexis Villermo, alors que demain, il y a le contre-la-montre par équipe et ils sont censés entourer Romain Bardet qui a des prétentions au général. C'est quand même franchement pas une bonne nouvelle.
Ouais, c'est problématique. Je pense que l'équipe AG2R La Mondiale a très bien préparé ce Tour de France, mais leur petit point faible, s'il doit y en avoir un, c'est peut-être au niveau du chrono par équipe. Ils sont là demain plus pour limiter la casse. Et maintenant, les équipes depuis l'an dernier sont de 8 coureurs. Lorsque vous avez 2 coureurs qui ont lourdement chuté la veille, même si ce n'est pas les 2 qui sont censés être les locomotives sur le plat, mais c'est quand même, c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle, il faut être franc. Ouais.
Le Duc de Winter, vous avez vu ces images, Benoît Cosnefroy, champion du monde espoir, qui participe à son ancien champion du monde espoir, qui participe à son premier Tour de France. Impressionnante hein, cette image. Il tombe vraiment à plat ventre.
Ben oui, il y a toujours énormément de nervosité dans les finales de course. Et comme l'a dit Thomas, tomber la veille d'un contre-la-montre, c'est pas l'idéal parce qu'on est souvent courbaturé le lendemain d'une chute. Donc je pense pour ces deux coureurs-là, ça va être difficile et ils vont devoir limiter la casse pour AG2R.
On est avec Laurent qui est auditeur d'Europe 1 et qui tenait à participer à ce Club Tour. Laurent, vous avez suivi, j'imagine, si vous nous appelez cette étape. Vous avez vu les chutes. Ça vous a impressionné tout ça?
Ouais, bonsoir tout le monde. En fait, les chutes, je m'y attendais. Impressionné. Je me suis posé la question si c'était pas plutôt une erreur. De placement, parce qu'on se retrouvait dans les 30, dans la 30e position pour un sprinter à 15 km de l'arrivée. Ça me paraît un peu grotesque pour une première étape et espérer avoir le maillot jaune parce qu'il était quand même favori. Donc j'étais un peu choqué, quoi. Je sais pas si c'est pas une erreur de ses équipiers, de lui-même ou de l'équipe.
Mais vous parlez de la chute de Groenewegen là,
ah oui.
Intervenu
oui,
à 1 km de l'arrivée,
oui,
c'est
oui.
Ça.
Oui, ah. Oui, pas de Fuglsang, ouais.
Ouais. Oui, qui est tombé un peu plus loin. À 18 km de l'arrivée, Jakob Fuglsang, le Danois de l'équipe Astana. Il y a plusieurs auditeurs qui voulaient appeler pour parler à Thomas Voeckler. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais profitez-en parce que c'est notre nouveau consultant sur Europe 1. Donc, si vous avez une question à lui poser en matière de cyclisme,
peut-être lui donner l'explication justement
de ce placement. Répondre déjà, Thomas.
Tout simplement qu'il y a 176 coureurs au départ, que la route elle fait 6-7 mètres de large et que dans les oreillettes, on essaye de se placer au mieux. Tout le monde veut aller à l'avant, donc il n'y a pas pas de place pour tout le monde. Et malgré toute la bonne volonté et tout le travail collectif qui est mis en place, c'est vrai que des fois, les coureurs qui sont censés être dans les 10 premiers sont à la 30e, 40e place et essayent de remonter. Ça fait une sorte de rouleau compresseur. Et voilà, malheureusement, la chute est parfois inévitable.
Oui, oui, moi je suis d'accord, mais quand je regarde le Ineos, comment ils étaient placés vraiment sur la droite pour éviter justement la moindre chute et tout ça, je me suis dit.
Vous avez raison, mais il n'est pas Ineos qui veut. C'est-à-dire qu'ils ont des coureurs, ils ont vraiment des machines à rouler. Et c'est vrai que toutes les équipes n'ont pas le luxe, entre guillemets, d'avoir un tel niveau au sein de leur propre équipe. Et puis, il faut dire aussi, je pense que les équipes sont un petit peu impressionnées par Ineos. Et je crois que Ineos, même sans Christopher Froome, a vraiment la main mise et fait peur à tout le monde. Et on les respecte presque, on leur laisse la place, contrairement aux autres équipes.
Merci en tout cas à Laurent, auditeur d'Europe 1, de nous avoir appelé, d'avoir pu avoir cet échange avec Thomas Voeckler. Et puis, il y a eu cette chute à 18 km de l'arrivée de Jakob Fuglsang, le Danois, qu'on présentait comme l'un des hommes en forme. On va en parler, mais d'abord, une nouvelle pause publicitaire.
Il est 19h30, on retrouve Axel May pour la suite du Club Tour sur Europe 1.
Et à mes côtés, bien sûr, Thomas Voeckler, consultant européen, Patrick Chassé, qui a fait quelques Tours de France derrière lui, puis qui a tenté, qui innove pour ce Tour de France. On va en parler, Patrick, un peu plus tard. Ludwig de Winter, qui vient exprès de Binche. J'ai bien prononcé, là, c'est bon. Avec l'accent, comment on dit en wallon avec cette prononciation?
Oh, Binche.
Binche. Et puis il y a eu cette chute de Jakob Fuglsang, équipe Astana, l'un des favoris en tout cas sur le papier avant le départ de ce Tour de France. Il a remporté le Critérium du Dauphiné, il est costaud, même si souvent sur les épreuves de 3 semaines il a plus de difficultés que sur les épreuves d'une semaine. Paul Hermand, qui est notre pilote européen, et puis m'a gentiment apporté les informations sur la santé de Fuglsang. Il est tombé, il souffre de l'artère et également du
l'arcade
sourcillée. Il a eu des points de suture et puis du genou. Et Thomas, vous disiez ça, c'est plus problématique parce que l'arcade à la limite.
Le communiqué médical apparemment fait état de lésions musculaires autour du genou. Donc le genou, c'est quasiment l'articulation la plus importante pour un coureur cycliste. Et ce qui est sûr, c'est que sur un Tour de France, on ne se soigne pas du genou. Attention, je dis pas qu'il sera pas au départ demain et qu'il va abandonner dans 4 jours. Mais le genou, on a vu avec Tom Dumoulin qui est tombé au Tour d'Italie blessé au genou. Il n'a même pas eu le temps de récupérer, de se soigner pour pouvoir être au départ du Tour de France. Donc c'est le deuxième du Tour de France de l'année dernière.
Et il avait terminé l'étape pourtant à Frascati en tombant, et le lendemain justement
qu'il avait fait 4-5 km je crois.
Il boitait bas et il avait abandonné dès le départ quasiment. Peu après le départ.
Non mais ça, c'est aujourd'hui l'illustration de l'expression le Tour ne se gagne pas un jour de la première semaine mais peut se perdre. Alors on espère tous qu'il soit en bonne santé, mais c'est pour ça aussi qu'il y a des chutes, c'est parce que tout le monde veut justement éviter les chutes, alors tout le monde veut se mettre à l'avant et puis à un moment ça casse quoi.
Alors, j'en profite avant qu'il y ait un abandon d'un leader pour vous poser
vous allez pas lui porter chance.
J'ai pas dit que ça serait lui. La question, si vous aviez un pronostic, parce qu'il y a les auditeurs qui nous posaient la question sur Europe 1, qui vous voyez finir sur le trio de tête? Allez, je commence par Patrick Chassé, comme ça après on peut copier sur lui.
On parle de quoi? Du favori du Tour de France?
Ouais, le trio de tête sur les Champs-Elysées, vous diriez qui?
Il faut que j'en cite 3. Moi je vois
l'ordre ou
non, allez, dans le désordre, ça peut être.
Ah non, dans l'ordre.
Patrick joue,
bien sûr.
Et là, genre, on le dit aujourd'hui, on n'a plus le droit de revenir dessus.
Non, sauf
c'est enregistré.
C'est enregistré.
Bon. Et alors, si on ne dit pas un Français cette année, on va passer pour un traître à la nation. Là. Et puis, alors, on a nos amis belges qui sont là.
Ludwig nous dira. Alors, allez-y, Patrick, vous, ça serait quoi votre.
Non, moi, je pense qu'Egan Bernal a la meilleure équipe. L'équipe Ineos, l'équipe de Geraint Thomas. J'ai du mal à croire que Geraint Thomas gagne 2 tours de suite. C'est plus dur que 3 ou 4, il me semble. Qui confirme, c'est dur la deuxième année. Mais Bernal, j'ai vu le Tour de Suisse de très près, donc c'est peut-être pour ça que je suis influencé par cette épreuve.
Et si vous deviez mettre un deuxième
derrière, derrière, en revanche, en deuxième position, moi je vois bien effectivement un Français. Sur ce qu'on a vu dernièrement, Thibaut Pinot me paraît mieux effectivement que Romain Bardet. Bon, voilà. Et puis le troisième, j'avoue que j'aurais pu dire Fuglsang, mais là ce soir évidemment on a tendance à être un petit peu plus réservé. Donc le troisième, je ne sais pas quoi vous dire.
Bon, Ludwig, si vous deviez donner 3 personnes qui seraient, alors évidemment il peut y avoir des chutes, etc. Mais aujourd'hui, ça serait qui?
Bah, un peu comme Patrick, c'est pas facile à dire parce que bah, il peut encore se passer beaucoup de choses.
Mais c'est très ouvert hein, quand même.
Oui, oui, le Tour de France cette année est vraiment, vraiment ouvert en termes de favoris. C'est difficile de dire avec tout ce qui peut se passer. C'est
non, mais on te demande de prendre des risques, s'il te plaît. Les
bah, justement, les risques, c'est clair. Bah, je suis le cyclisme depuis longtemps et j'adore le cyclisme. Et j'ai envie qu'un Français brille aussi sur le Tour. On a, c'est clair, vous avez une très belle génération aussi de Français en montagne. Et bah, pourquoi pas, pour vous rêver, un Thibaut Pinot, justement, qui est en très grande forme. Maintenant, bah, l'équipe Ineos reste l'équipe la meilleure, je pense, sur les tours. Et bah, au vu des dernières semaines, je dirais Bernal aussi. Après, bah, Français et peut-être... Steven Kruiswijk de chez
Néerlandais, pas de Belge parce que les Belges malheureusement en montagne aujourd'hui c'est pas les meilleurs.
Ah quand même, attention.
Attention à ce que je dis, c'est ça.
Mais oui, bah, Tim Wellens, Tijmen.
Le maillot à poids il est porté par un coureur belge.
Hein, Greg Van Avermaet. Mais après sur la montagne.
Là j'ai pas osé.
C'est vrai que sur les épreuves de 3 semaines les Belges ont un peu de mal, on va dire ces dernières années.
Quel sera le meilleur Belge?
Ouf, bah ça c'est difficile à dire, mais je pense Tijbenoot en termes des derniers résultats, si tout se passe bien, on a bien vu qu'il passait bien la montagne, il a beaucoup travaillé en altitude aussi, et donc je pense que pour lui, c'est peut-être sa chance de rentrer dans un top 10 cette année.
Et vous, Thomas, si vous aviez aussi vos pronostics à faire, on ne les reprend pas tous les jours, on fait première émission.
Il faut savoir que je suis très chauvin, donc ouais. Dans mes pronostics, je dis toujours les Français. Donc je vois une victoire de Romain Bardet, je vois une deuxième place pour un coureur de la Movistar, Landa, donc l'Espagnol, et puis une troisième place de Thibaut Pinot. Voilà. Donc 2 Français sur le podium, 1 et 3. Pourquoi ? Parce que, comme on a dit, non mais je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais j'y crois vraiment. Je crois que l'équipe de Romain Bardet, même si aujourd'hui il y a eu des petits pépins, n'a jamais été aussi prête, n'a jamais... Ça vaut aussi, tout ce que je dis vaut aussi pour Thibaut Pinot. C'est-à-dire que leurs équipes respectives n'ont jamais été aussi centrées sur l'objectif. Elles ont préparé, elles ont un groupe dédié au Tour de France depuis cet hiver, des stages, une vie en commun. L'équipe AG2R La Mondiale a peut-être plus d'expérience que la Groupama FDJ sur le Tour de France. C'est-à-dire que Romain Bardet a grandi, a progressé, mais son équipe avec lui. Il a fait progresser son équipe, son staff, son entourage, tout. Voilà, ils savent ce que c'est. Et Romain Bardet ne s'est jamais loupé sur un Tour de France. L'an dernier, d'accord, il n'a pas fait de podium, mais il était 6e. Il était peut-être un peu moins bien que les autres années, mais il était là. Et pour moi, je suis convaincu que c'est l'année Romain Bardet parce que déjà on passe, ça c'est anecdotique peut-être, mais on passe dans sa région natale. Son point faible, le contre-la-montre, il n'y en a qu'un en individuel et c'est à une semaine de l'arrivée à Paris au moins. C'était, il y a 27 km, ce qui n'est pas grand-chose et c'est pas tout plat. Donc ça veut dire qu'il reste après tout le massif des Alpes pour refaire le retard qu'il aura eu sur ce contre-la-montre individuel. Et pourquoi je ne mets pas de coureur de l'équipe Ineos, anciennement Sky? Parce que pour moi, Geraint Thomas, je suis tout à fait d'accord avec Patrick, c'est beaucoup plus compliqué de confirmer. Et depuis le début de l'année, il ne nous a pas rassuré sur sa condition physique.
En plus, il est tombé sur le Tour de Suisse.
Et Egan Bernal, qui fait figure d'épouvantail, avec tout le talent qu'on lui connaît. On l'a vu à Paris-Nice, on l'a vu au Tour de Suisse. Il est bluffant, il est hallucinant et c'est un coureur magnifique. Mais un Tour de France, c'est particulier. C'est particulier dans tout, dans la pression, dans le public qu'il y a sur le bord des routes, dans les chutes. C'est-à-dire que surtout, c'est la seule course au monde où vous ne pouvez pas entendre la chute qui se produit 10 places devant. Parce qu'il y a les hélicos, il y a le public. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour Egan Bernal. Je ne souhaite bien sûr pas de malheur, mais je suis convaincu qu'il y aura un pépin avec Egan Bernal parce qu'il n'a pas, il n'a pas encore d'expérience sur le Tour de France.
Il est quand même très paradoxal, hein, notre ami Thomas Vauclair. Parce que là, il a choisi de nous parler d'envisager des chutes pour l'équipe Ineos. C'est vrai qu'il n'a pas été épargné.
J'ai dit que Jeunesse était pas, non, mais en tout cas, attention. Et je le pense,
vous les envisagez. Et en revanche, cette équipe AG2R La Mondiale qui n'a pas non plus été épargnée par la malchance ces derniers temps, et aujourd'hui on l'a bien vu, mais on pourrait parler aussi de Pierre Latour, hein, qui finalement n'a pas pris le départ et qui était quand même le lieutenant de Romain Bardet,
meilleur jeune du Tour,
et une locomotive sur le contre-la-montre par équipe, parce qu'il est l'année dernière champion de France du contre-la-montre.
Ce qui me fait dire, Thomas, que bon, on n'est pas d'accord, tant mieux, ça permettra, mais moi, j'ai du mal à penser que l'équipe AG2R La Mondiale est justement la formation, le collectif pour soutenir cette année Romain Bardet. Et quand le doute est là au départ du Tour, alors après, bon voilà, ça dure 3 semaines. Bah, c'est quand même pas facile. Ils partent pas dans la facilité, ce Tour de France. Et quand c'est mal engagé dès le premier jour, je veux surtout pas leur porter la poisse. Hein, mais Voilà, j'ai quelques frayeurs quand même.
On va continuer à parler de tout ça et puis de ce contre-la-montre par équipe qui arrive demain où il y aura sans doute les premiers écarts. On aura des idées, est-ce que le maillot jaune ou pas va changer de porteur de maillot. Est-ce que AG2R la mondiale perdra ou pas du temps. Tout ça, on va continuer à en parler dans un petit instant.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez le Club Tour et c'est avec vous Axel May.
À l'arrivée de cette première étape ici à Bruxelles, on rappelle pour ceux qui nous rejoignent la victoire du Néerlandais Mike Tennyson qui du coup est le premier maillot jaune de ce 106e Tour de France, Thomas Voeckler, Patrick Chassé et puis le coureur belge Ludwig de Winter sont à mes côtés. Le contre-la-montre demain, deuxième étape contre-la-montre autour de Bruxelles, un peu moins de 30 km. Thomas, vous me dites que vous allez partir le reconnaître demain vous-même sur votre vélo ce contre-la-montre ?
Ouais, j'ai emmené mon vélo pour me dégourdir un petit peu les jambes sur ce Tour de France quand je vais avoir le temps, c'est-à-dire pas trop tard le matin. Et donc demain matin, je vais aller reconnaître le circuit et je pourrai comparer ma piètre moyenne par rapport à ceux qui vont faire l'après-midi, les avions de chasse qui vont partir à partir de 14h30, il me semble.
Et ça risque d'être, Patrick, très rapide, non, comme contre-la-montre ?
Oui, évidemment. C'est pas un contre-la-montre très long, c'est un contre-la-montre...
Il me semble que Ludwig l'a reconnu il y a quelques semaines, il peut peut-être mieux en parler que nous.
Moi, c'est sûr, je vais pas aller le reconnaître, contrairement à vous, messieurs.
J'ai eu la chance de faire le contre-la-montre il y a une quinzaine de jours, et c'est clair que c'est un parcours qui n'est pas très technique en termes de virages très dangereux ou quoi. Donc c'est beaucoup les boulevards de Bruxelles et les ponts, on passe dans les boulevards de Bruxelles. Et ça roule très très vite, ça descend très vite dans l'entrée de tunnel et à la limite pendant la reconnaissance. Je sentais même pas quand j'arrivais au-dessus de la fin du tunnel, donc c'est la preuve qu'en vélo de chrono, ça va rouler très vite et il va falloir avoir des gros spécialistes du contre-la-montre.
Mais très vite, Ludwig, ça veut dire quelle vitesse ?
Franchement, quand je l'ai fait, j'étais à 39-40 de moyenne juste à l'entraînement. C'est vraiment déjà vite, je trouve.
Avec vélo traditionnel. Ah oui, donc demain.
J'ai rencontré Cyril Tricard d'ASO qui m'a dit que normalement, ils devraient battre le record de rapidité en termes de contre-la-montre par équipe sur le Tour de France. Donc. Maintenant, c'est à voir. Et
donc
je
ça veut dire 55 km/h.
Ouais, je pense c'est même plus.
56. Ouais, on peut.
Je crois que c'est 57-800.
On peut peut-être aller à 57 parce que c'est un collectif et c'est vraiment des machines à rouler. C'est réglé au millimètre, que ce soit le matériel ou alors les passages de relais. Ils travaillent toute l'année pour cette occasion. Et puis pour parler de vitesse, parce que c'est des chiffres que aiment les auditeurs, demain, il n'y aura pas de descente. Vous pouvez avoir quelques petites cuvettes, des faux plats descendants, où les coureurs, tenez-vous bien, seront à 75 km/h à la force et pas dans une descente. Donc c'est vraiment un exercice magnifique à voir, ô combien difficile à maîtriser, mais magnifique à regarder.
Et quand on a une équipe comme Wanty-Gobert, quand on va dans un contre-la-montre comme ça, alors là c'est particulier parce qu'on est en Belgique, donc il y aura les supporters, mais... Vous, c'est quoi vous, le contre-la-montre, je ne vais pas dire que vous le prenez par-dessus la jambe, mais il n'y a pas tellement d'enjeux pour une équipe comme la vôtre.
C'est difficile parce qu'on n'a pas envie, je pense, une équipe comme Wanty n'a pas envie de ramasser une claque non plus. Donc il faut être très professionnel là-dedans aussi. L'équipe travaille depuis, je pense, 3 ans avec Guillaume Martin justement pour lui aussi s'améliorer dans le chrono. Donc sur les stages, on a fait des exercices de chrono par équipe, des poursuites qu'on a faites en stage. Donc dès le mois de janvier-février, on avait déjà travaillé le chrono en vue du Tour de France. Donc pour l'équipe Wanty, c'est important aussi de ne pas être ridicule entre guillemets et d'être compétitif demain, même si on le sait que face à des grosses armadas comme on peut prendre Ineos, Lotto Jumbo et De Koenig qui vont être au-dessus, je pense, demain sur ce chrono.
Thomas, vous voulez réagir, non ?
Oui, simplement que vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il y a des équipes qui n'ont pas grand-chose à jouer parce qu'elles n'ont pas de leader pour le général. En revanche, ce que je peux vous assurer, c'est que les 176 coureurs au départ demain, ils vont tous le faire à 100% parce que c'est un exercice extrêmement stressant. Même si on n'a pas de coureurs pour le général, toutes les équipes, là vous pouvez aller faire le tour du paddock demain matin à l'échauffement. Il n'y aura pas de sourire, il n'y aura pas de blague avant le départ. C'est concentration extrême, que ce soit du côté du staff, des coureurs. Et puis oui, à domicile, on n'a pas envie d'être ridicule, quoi, c'est clair. Mais toutes les équipes ne partent pas sur un même pied d'égalité. Il y a des effectifs qui sont bien plus armés que d'autres.
Alors, vous citiez Lotto Jumbo, enfin Jumbo Visma maintenant, parce que ça change souvent de nom les équipes. Patrick, est-ce qu'à votre avis, Tennyson, qui est de cette équipe, il peut garder le maillot jaune parce que sa formation, elle s'y connaît quand même en contre-la-montre?
Oui, effectivement. Thomas, là, moi, je rejoins complètement Thomas sur ce qu'il disait tout à l'heure. Ça nous a été confirmé d'ailleurs le week-end dernier. Alors, ils sont pas tous présents, mais ils ont eu quand même 4 champions nationaux à titre individuel. Donc, c'est une équipe qui travaille vraiment très bien ça. Il y en a quand même quelques-uns qui sont présents. Et c'est vrai que même si le meilleur rouleur de cette équipe, en tout cas que l'on connaît sur les routes du Tour de France, n'est pas là cette année, Primoz Roglic, on a quand même un collectif qui est redoutable. Et puis, ces équipes, elles participent aussi à des courses qu'on connaît mal en France, c'est les Hammer Series. Les Hammer Series, c'est un concept compliqué, je ne vais pas vous le raconter aujourd'hui, parce qu'on y passerait la fin de l'émission. Mais en tout cas, c'est un peu comme le biathlon.
On n'a peut-être toujours pas compris d'ailleurs.
C'est un peu comme le biathlon, c'est un peu comme aussi le combiné nordique dans les sports d'hiver, c'est-à-dire qu'on fait des sprints et puis après, à la fin, il y a un contre-la-montre où on part avec un handicap de temps, mais peu importe, ils ont fait toutes les Hammer Series et ça, ça leur permet en tout cas de s'aguerrir dans un exercice qui n'est pas souvent pratiqué en cours d'année. Et donc, ça peut être un avantage pour ces équipes qui ont participé aux Hammer Series. Elles ne sont pas si nombreuses, mais l'équipe Jumbo-Visma en fait partie.
Et puis, dans leur rang, cette équipe Jumbo-Visma qui aura le maillot jaune, donc demain au départ, il y a quand même Tony Martin, un ancien multiple champion du monde. Alors, il est peut-être moins fringant qu'à sa meilleure époque, mais il est encore champion d'Allemagne récemment du chrono. Et puis, il y a des machines à rouler. Et on peut penser à Wout van Aert, qui est le phénomène de ce début d'année. C'est son premier Tour de France. C'est un garçon qui sait tout faire. Ça va rouler très, très, très vite.
Et qui vient de devenir champion de Belgique, du contre-la-montre lui aussi.
Dire ça. Il est belge et il est chez lui. Thomas nous appelle d'Île-de-France. Vous vouliez peut-être réagir sur ce contre-la-montre ou poser une question à l'autre Thomas Leclerc.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Oui, donc déjà, très enchanté de passer sur votre plateau. Oui, j'avais une question déjà pour commencer pour Thomas Vauclair. C'est concernant donc le comportement de nos Français sur cette première étape. On a vu notamment au secteur pavé, quand il y a eu le sprint intermédiaire, où le peloton s'est cassé en 3 parties, qu'on a vu Thibaut Pinot très bien placé, Romain Bardet très réactif à tous les changements. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement des Français, être très attentifs en cette première semaine et en général de tous les leaders?
Je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir. Vous ne pouvez pas toute l'année préparer le Tour de France avec un collectif, faire une croix sur un paquet de courses en début d'année pour faire des stages de préparation et arriver à la première étape et puis les arder en queue de peloton. C'est vrai que là, le gros du travail en termes d'entraînement, de préparation, enfin la totalité du travail en termes d'entraînement et de préparation a été faite. Maintenant, c'est de la vigilance et de la performance. Et ça, ils ont été, on ne va pas dire qu'ils nous ont épatés parce qu'ils sont à leur place. C'est là où ils devaient être, dans la première partie du peloton. On savait que ça serait avec ce secteur pavé et ce vent un petit peu de côté ensuite, un moment un petit peu de tension. Ils ont été là, ils ont été fidèles au poste tout simplement.
Merci Thomas Vauclair. Et je vous pose juste Thomas d'Île-de-France la question très rapidement. C'est qui selon vous le meilleur coureur de tous les temps? Parce qu'on va en parler juste après la pub.
Eddy Merckx, sans doute. Je pense qu'on va vous enlever le mot de la bouche.
Moi, j'ai rien dit, je vous pose la question. Allez, on va continuer à parler de tout ça et cette question: qui est le meilleur coureur cycliste de tous les temps?
Il est 19h48, le Club Tour se poursuit sur Europe 1 avec vous, Axel May.
Et cette victoire de Mike Tönnissen ici à Bruxelles, et cette question que je vais vous poser, messieurs: quel est selon vous le meilleur coureur cycliste de tous les temps? Alors, si je pose la question, c'est parce qu'on est en Belgique et qu'il y a un certain Eddy Merckx qui a remporté son premier Tour de France il y a 50 ans.
Honoré ce matin, effectivement, quand on l'a accueilli en grande pompe, si je puis dire, au départ à
Bruxelles.
Même
sur la grande place, dans la présentation officielle des équipes, il a été applaudi, on entendait les Eddy, Eddy, Eddy. Patrick Chassé, c'est quoi? C'est Eddy Merckx? C'est l'un des autres quintuples vainqueurs du Tour de France, Indurain, Anquetil ou Hinault?
C'est les noms qui viennent à l'esprit forcément, mais moi je dirais que pour le tout à chacun, quand on suit le vélo, le plus grand champion, c'est avant tout celui de son enfance. C'est celui qu'on a admiré, c'est celui qui vous a épaté, c'est celui qui vous a fait aimer le vélo, tout simplement. C'est ça pour soi le plus grand champion du monde. Alors on peut dire oui, moi je pourrais dire Coppi, on en parlait juste avant là, mais j'ai pas connu Coppi. Alors je sais que c'était un très grand champion. Non, pour moi mon champion c'est Luis Ocaña, parce que Luis Ocaña m'a fait aimer le vélo, parce que Luis Ocaña il a pas le plus grand palmarès, mais avec beaucoup de déceptions, beaucoup de tragédies également. Il y a ce Tour 71 qu'il perd dans la descente du col de Mente, et puis il y a la renaissance, le Tour 73 qu'il gagne devant qui? Avec Merckx justement qui l'arrive à défaire. Donc c'est voilà, c'est ça moi qui m'impressionne. Et donc quand on bat le plus grand champion du monde, celui qui objectivement est le plus grand, Eddy Merckx, eh ben on est, en tout cas dans mon cœur, le plus grand champion de tous les temps.
Mais vous Thomas Voeckler qui êtes, vous le disiez un peu chauvin, c'est vous qui l'avez dit hein, tout à l'heure en début d'émission.
Oui,
vous,
je revendique.
Vous allez nous dire en petit.
On a Ludwig qui est belge, donc je vais quand même pas dire Eddy Merckx parce que ça va. Je pense que ça va être sa réponse. Donc non, je comprends ce que veut dire Patrick. Pour moi, pour l'avoir connu après ma carrière et même en tant que coureur un petit peu côtoyé, c'est Bernard Hinault. De par le palmarès certes, mais surtout de par le personnage que c'est et son caractère, ses sorties, pour moi c'est un personnage et c'est pour moi le plus grand quoi, enfin de mon point de vue.
On est au téléphone avec Jean Cléder, auteur. Je vais poser la question à Ludwig. Jean Cléder, auteur de Eddy Merckx aux éditions Mareuil Éditions, analyse d'une légende. Vous êtes maître de conférence en littérature générale et comparée à l'Université de Rennes, mais vous adorez le cyclisme. Vous avez écrit un livre, Bernard face à Hinault, Petit éloge de la course cycliste, et puis donc ce livre sur Eddy Merckx. On a un coureur belge avec nous, Ludwig, qui vous allez nous dire aussi, c'est Eddy Merckx votre favori.
Bah oui,
votre meilleur coureur de tous les temps.
Oui, parce que en tant que belge, on est allé entre guillemets, la culture belge ne fait qu'on parle d'Eddy Merckx dès qu'on est tout petit. Mon papa m'a tout de suite parlé d'Eddy Merckx quand j'étais jeune, et chez nous, c'est tout à fait logique de parler du cannibale.
5 Tours de France, 5 Tours d'Italie, 4 championnats du monde sur route, 7 Milan San Remo, 3 Paris-Roubaix, 625 victoires en tout, c'est rappelé dans votre livre. Jean Cléder, bonsoir hein, Cléder, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Dans ce livre, vous êtes amusé à compiler un petit peu tout ce que vous avez pu trouver autour d'Eddy Merckx et d'analyser, c'est vous qui l'écrivez, cette légende d'Eddy Merckx. Racontez un peu.
Oui, alors l'enjeu de ce travail, c'était effectivement de reprendre le plus possible de documents de l'époque, c'est-à-dire des vidéos, c'est-à-dire des coupures de journaux, des photographies, des start lists, etc., des posters, des publicités, pour les confronter, défaire l'histoire telle qu'elle a été racontée et la raconter, disons, de façon plus personnelle. Raconter de façon plus personnelle, ça ne veut pas dire forcément inventer. Par exemple, je profite de la situation pour rectifier une erreur qui vient d'être prononcée. Lorsque Luis Ocaña gagne le Tour de France en 1973, Eddy Merckx regarde le Tour de France à la télévision. Donc, Ocaña n'a jamais battu Eddy Merckx.
Non, mais bien sûr. Contrairement à Bernard. Non, mais on est d'accord. Je me suis mal exprimé, évidemment. Mais on est dans une France qui, justement, déjà en 1973, a pris l'habitude de voir Eddy Merckx venir à chaque fois et gagner les courses dans lesquelles il s'impose. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, justement, il fallait en 1971, il y avait eu cette chute de Ocaña, alors que là, justement, il était en passe de gagner face à Merckx.
Absolument. Simplement, les analystes sont un peu plus nuancés par rapport à cette version que vous venez de donner parce que, désormais, on considère un peu que le harcèlement physique donc opéré par Merckx pendant les jours qui ont précédé ont complètement épuisé Luis Ocaña, qui par ailleurs était un très piètre descendeur, de sorte que les numéros de voltige d'Eddy Merckx dans les descentes, y compris donc la descente du col de Mente, ont eu une issue, disons, très fâcheuse pour le coureur Luis Ocaña. C'est une autre version qu'il est important de tester.
Non, je pense que les deux versions ne sont pas contradictoires.
Qu'il ne faut pas trop chatouiller Eddy Merckx, hein, parce que là, on va en prendre pour notre grade, les amis. Là, nous, on essaie juste.
Jean Cléder, auteur de ce livre.
Non, il ne faut pas caricaturer des demi-vérités. Il faut essayer d'aller au plus près de ce qui se passe.
On peut, je trouve pas que vos deux versions sont contradictoires. Les deux versions sont pas contradictoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on sait très bien qu'un tour peut se gagner dans une descente, comme il peut se perdre dans une descente. Et effectivement, Merckx poussait à la faute ses adversaires dans les descentes. Mais bon, enfin voilà, je veux pas qu'on fasse la soirée là-dessus, mais simplement. C'est vrai que je pense que vous serez d'accord parce que vous avez commencé, en tout cas sur un point, on sera d'accord, c'est que vous avez commencé à parler effectivement d'un regard personnel. Et moi, quand je parle de Ocaña, c'est un regard forcément personnel. On adore les coureurs que l'on a aimés quand on a été impressionné. C'est souvent effectivement au moment de l'enfance ou de l'adolescence quand on a été impressionné par un exploit. Et honnêtement, très tôt, moi, par exemple, ce qui me surprend, c'est que très tôt, j'ai trouvé, alors c'est un souvenir personnel, mais vous qui avez analysé ça, vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus. En qualité d'enfant, je me suis mis à, allez, j'ose le dire, à détester Eddy Merckx, j'ose le dire, parce que j'ai à côté de moi Hedwig de Winter, qui est un coureur belge, et j'aime beaucoup ce pays. Mais voilà, et aujourd'hui, rétrospectivement, je suis un petit peu surpris d'avoir, et je culpabilise un petit peu d'avoir détesté enfant Eddy Merckx, au profit d'un Luis Ocaña.
Oui. Bien sûr, mais vous avez entièrement raison en soulignant le fait que le grand coureur, c'est celui qui stimule l'imaginaire, qui sait penser, qui sait rêver et qui sait se projeter dans d'autres zones, finalement, que sa zone propre. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous.
Jean Cléder, dans votre livre, oui. Là que j'ai entre les mains, où il y a beaucoup de photos, de documents qui se lient assez facilement, hein, ça fait 200 pages, ça se lit quasiment en une soirée, ou non, j'exagère, mais ça se lit, je veux dire, facilement, c'est agréable à lire. Si, pour donner envie à l'auditeur de le lire, qu'est-ce que vous apportez de plus sur cette légende Eddy Merckx, hein, c'est encore une fois le titre de votre livre, Analyse d'une légende.
Eh bien, le fait qu'on utilise les documents et les images, non pas pour illustrer le livre, mais pour repenser l'histoire d'Eddy Merckx et les exploits d'Eddy Merckx et tout ce qui a pu se passer donc sur son parcours. C'est-à-dire qu'il y a un traitement des documents qui est différent d'une part, et il est vrai aussi que je me suis autorisé à écrire de façon un petit peu, mettons, personnelle par rapport à cette histoire-là. Parce que en travaillant sur les archives, je me suis rendu compte aussi que finalement les événements, les courses gagnées, etc., etc., étaient totalement indissociables des récits qui sont produits par les journalistes, les photographes, les écrivains, les monteurs, les commentateurs qui sont sur les motos, etc., etc. C'était ça l'enjeu, c'était un petit peu retrouver la vitalité du temps vécu donc sur les courses à l'époque d'Eddy Merckx.
Jean Cléder, maître de conférence en littérature générale et comparée à l'Université de Rennes, auteur donc d'Eddy Merckx, Analyse d'une légende chez Mareuil Édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci Thomas Vauclair, merci Patrick Chassé, merci Ludwig de Winter. Et puis la troisième étape, hein, quand même, ça partira de chez vous.
Oui, on se retrouve à Binge, j'espère, sur la belle ville de Binge qui est magnifique. Et vous verrez l'accueil à Binge est aussi chaleureux que Bruxelles, je pense.
Et on en parlera parce que là, vous avez à peine commencé votre périple, mais vous faites le Tour de France différemment, Patrick Chassé. Vous avez voulu le faire en train, en vélo, on en parlera longuement.
Oui, pas demain en tout cas. Demain, parce que je prends le métro demain, c'est pratique.
Merci, allez, vous retrouvez dans un instant Lionel Rosso. Merci à toutes et à tous, bonne soirée.